ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour et bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, sur Radio Béton 93.6, l'émission qui parle de logiciels libres et de culture libre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quelque peu différent, qui est le matériel libre et ouvert. Sachant qu'en général, on parle de choses complètement immatérielles, puisque ce sont souvent du texte, de la musique, du logiciel qu'on peut tout à fait reproduire gratuitement sur Internet. Mais là, le matériel, c'est quelque chose de complètement différent. On ne peut pas le dupliquer gratuitement. Mais il y a quand même des enjeux et un intérêt à le rendre libre et ouvert. Avant de définir à proprement parler ce que c'est du matériel libre, on peut déjà s'intéresser à quelques exemples de matériel non libre. Par exemple, dans pas mal de voitures récentes, le capot est scellé, vous ne pouvez pas tellement accéder aux composants intérieurs de votre véhicule. Il y a aussi un ordinateur de bord qui n'accepte d'être lu que par le garagiste agréé. On sent bien qu'on est assez limité devant ce matériel-là. Également, concernant le téléphone iPhone de chez Apple, on peut émettre pas mal de critiques, par exemple sur la gestion de l'App Store, où il y a souvent de la censure injustifiée. Mais en tout cas, au niveau matériel, on peut dire que le matériel n'est pas du tout ouvert, puisque par exemple, on est dans l'incapacité de changer la batterie, puisque à la base, il est interdit d'ouvrir la boîte. Ça fait partie des secrets de fabrication de chez Apple. Dans les conditions d'utilisation de ce téléphone, vous n'avez en aucun cas le droit de l'ouvrir. Au contraire, dans le matériel libre, que les anglophones appellent open hardware, on a un certain nombre de libertés. Quand on se rappelle un petit peu des libertés qu'on a sur une œuvre libre mais immatérielle, c'est d'abord la liberté de l'utiliser, la liberté de la diffuser, la liberté de la modifier, et enfin d'en redistribuer des œuvres dérivées. On se doute bien que ces libertés vont pas forcément s'appliquer à l'objet physique en lui-même, mais plutôt à ses plans. Quelle est la conséquence par rapport à ces plans? Eh bien, de même que dans un logiciel libre, la recette du logiciel libre ou code source, pour le terme exact, est publiée ouvertement et ne saurait être cachée, de même, le matériel libre se caractérise par des spécifications qui sont ouvertes. Chacun peut les consulter et voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ce matériel. Si on utilise des produits dangereux comme dans pas mal d'appareils électroniques, ça, on ne peut pas vous le cacher par exemple. Également, il n'y a pas non plus de secret de fabrication. Ceci signifie que vous avez également un droit d'usage qui n'est pas limité. Tout aussi important, dans un matériel ouvert, vous pouvez étudier les plans, voir comment modifier votre appareil. Par exemple, si vous voulez le réparer, si vous voulez lui apporter une amélioration, vous pouvez tout à fait. Ce n'est a priori pas interdit. Plutôt que les voitures modernes et au capot scellé, ça nous rappellerait un peu plus les deux chevaux que n'importe quel bricoleur pouvait entretenir lui-même et même fabriquer quelques pièces de rechange avec quelques petits bouts de fil de fer. Autre liberté qui nous est donnée par le matériel libre, c'est le fait de pouvoir fabriquer soi-même le matériel. Vous pouvez très bien l'acheter à un industriel ou à d'autres industriels puisqu'ils peuvent aussi le fabriquer. Après, ça dépend de vos moyens, ça dépend de la complexité de l'opération. Mais en tout cas, il n'est pas interdit de fabriquer ce matériel une fois que ces spécifications ont été faites. Vous avez le droit de pouvoir en faire des œuvres dérivées, c'est-à-dire que si vous avez des améliorations à apporter au produit, vous pouvez très bien reprendre les plans, les modifier, les republier ensuite, et pourquoi pas produire d'autres exemplaires du matériel libre avec ces plans modifiés. Dans tout ce que je viens d'exposer, on retrouve les mêmes principes que ceux qui ont posé les bases de la culture libre, à savoir les libertés d'usage, de modification, de redistribution, de distribution également d'œuvres dérivées. Et d'ailleurs, un journaliste, dans un livre, écrivait ceci: « L'Internet a démocratisé la publication, la diffusion et la communication, ce qui a eu pour conséquence d'accroître de façon massive le degré de participation et de participants dans le monde digital. La même chose est en train de se produire en termes de fabrication. Le web n'était qu'une démonstration de faisabilité. Maintenant, la révolution va aussi toucher le monde réel, c'est-à-dire le matériel. » Tout comme sur Internet, on se met à travailler ensemble sur un projet collaboratif, à produire des œuvres immatérielles, on se met actuellement aussi à collaborer sur Internet pour concevoir des produits matériels. Est-ce qu'il s'agit là simplement d'une vue de l'esprit ? Est-ce que dans le matériel libre, il y a simplement quelques projets libres qui ont bien marché et qui finalement ne sont pas non plus significatifs pour tirer de vraies conclusions sur l'intérêt du matériel libre ? Eh bien non, puisque le matériel libre est aussi surtout porté par des entreprises qui ont vu l'intérêt d'ouvrir les plans de leurs machines. Pourquoi ? Parce qu'elles en tirent certains avantages en termes de recherche et développement. C'est-à-dire que si vous êtes devant un iPhone ou un iPad, j'aime bien taper sur Apple en ce moment, vous ne serez pas très créatif au niveau du matériel. C'est clair, vous allez utiliser le produit, mais vous ne pouvez rien faire dessus. Alors que sur du matériel libre, le fabricant aime toujours laisser une grande liberté aux utilisateurs pour faire un peu ce qu'ils veulent du produit et même, comme on l'a dit, le modifier, proposer des améliorations. Et au niveau recherche et développement, c'est un petit peu tout bénef pour un constructeur de matériel libre puisque ses coûts de recherche et développement sont complètement déportés chez ses clients, on va dire, puisque souvent, ses clients vont parler entre eux sur des forums, ils vont dire « Voyez ce que j'ai fait sur ma machine, j'ai apporté des améliorations, maintenant ça marche vachement mieux. » Et donc, toute cette circulation d'idées fait que le fabricant peut ensuite récupérer ses idées et les intégrer à son produit principal. On a un certain nombre d'exemples d'entreprises qui se sont montées à partir de quasiment rien et qui maintenant font des millions de dollars de chiffre d'affaires parce qu'elles ont su surfer sur cette vague. Chez les consommateurs, le matériel libre permet d'avoir une certaine baisse de coût, ce qui peut arriver par rapport à du matériel développé de manière un peu plus classique, puisque les coûts de recherche et développement comme on l'a dit, sont un peu externalisés par rapport aux fabricants. Et puis, indirectement, on ne paye pas de brevets ni de droits d'exclusivité qui sont généralement répandus. Par exemple, il y a des industriels qui sont très contents de dire que le produit qu'ils vous vendent, il a été breveté. Il faut savoir que le brevet, déjà, pour le déposer, ça a un certain coût. Et puis, de toute façon, vous êtes le consommateur. À un moment ou un autre, on vous fera payer ce mécanisme-là. Qu'est-ce qui a déjà été fait en matière de matériel libre ? On peut dire, si on va déjà sur la page Wikipédia concernant ce sujet, qu'il y a énormément de machines qui ont été conçues, développées, commercialisées sous licence libre. On nous cite des imprimantes 3D, des moyens de transport, la production de nourriture, la production d'énergie, les appareils électroniques, électroménagers, le domaine médical, l'agriculture et même des projets spatiaux. Dans tout cela, on peut déjà remarquer les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D sont en effet des matériels qui permettent de produire d'autres objets matériels. L'imprimante 3D est avant tout une imprimante, c'est un petit peu comme la machine qui pose de l'encre sur une feuille. Sauf que dans le cas de l'imprimante 3D, au lieu de poser de l'encre, on pose une substance plastique mélangée avec de la colle et qui forme ensuite des objets en plastique. On peut lui donner un fichier décrivant la forme de l'objet qu'on veut concevoir et l'imprimante 3D le réalise en 3 dimensions et de manière concrète. Ce type de matériel permet aux designers, aux bricoleurs ou à tous ceux qui veulent concevoir des objets matériels de les produire assez facilement. Pour ça, il y a déjà plusieurs projets qui sont nés pour concevoir des imprimantes 3D. On peut par exemple citer le projet RepRap. C'est une imprimante 3D qui est publiée sous licence libre, dont les plans sont publiés sous licence libre, et qui est conçue de manière simple dans le but d'être assez peu cher à l'achat. Ce qu'il faut voir, c'est que sur internet ça se vend dans les 600$, ce qui paraît un petit peu beaucoup, mais qui dans le domaine des imprimantes 3D est très très peu. Et cette imprimante 3D a la particularité de s'auto-répliquer. La plupart des composants de RepRap sont faits en plastique, et bien entendu, RepRap est donc capable de fabriquer les pièces nécessaires pour fabriquer une autre RepRap. C'est le premier objet matériel auto-répliquant. Parmi d'autres projets couronnés de succès dans le domaine du matériel libre, on peut citer le projet Arduino. Arduino est à la base une carte électronique programmable, un petit peu comme les cartes Basic Stamp ou autres objets qui permettent de programmer des petits robots ou d'autres trucs qui intéressent bien les bricoleurs en électronique. Donc sur cette carte programmable, on a un microcontrôleur, quelques entrées-sorties et du logiciel pour pouvoir implanter des programmes dans ceci. On peut également s'interfacer avec pas mal de petits matériels, des capteurs, des servomoteurs et bien d'autres choses. Et le but de cette plateforme est de pouvoir créer pas mal d'appareils électroniques et de stimuler la créativité des bricoleurs qui aiment bien mettre la main dans le cambouis, qui aiment brancher des composants électroniques, envoyer des petits programmes dedans. Et le but du projet Arduino, c'était de rendre ce type de matériel très accessible, puisque normalement les cartes programmables coûtent environ 100€ en général, et ils ont réussi à réduire ces coûts de production à environ une vingtaine d'euros, tout ça pour un matériel qui est assez intéressant et qui permet de libérer la créativité des gens. On aura l'occasion dans d'autres émissions de parler de matériel libre dans des domaines plus applicatifs qui touchent plus à l'usage courant. Mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine sur Vous êtes libre ce soir. Et dans les deux dernières minutes qui restent, on va s'écouter un petit morceau de musique de DJEJ, extrait de l'album The Broken Symphony, ça s'invente pas non plus, sous licence Creative Commons by NCND.
We would like to do a song here that back years ago, Elvis used to record on Sun Records. Did a tune called I Forgot to Remember, was his first number one song. And his next tune was just, he was in the studio and we had worked it out and fishing to record this song right here, but it never did happen. They had a little problem, so we never did get around the court, and I like to try to do it about kind of the way he would do it. No one could do it like he would do it, but I would like a track called We're Getting Closer to Being Apart.